Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Créée par les Gilets jaunes, cette émission a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à toutes citoyennes et citoyens, habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Aujourd'hui, Edwige, donc moi-même, et Dominique au micro. Au menu du jour, comme à notre habitude, un mezzé et un dessert. Pour le mezzé, les citoyennes en action et citoyens de notre territoire. Et quelques questions du moment. Les élus sont-ils des justiciables comme les autres? Et nous terminerons en solidarité avec le peuple syrien en partageant avec vous une recette de ce pays. Surtout prévoyez papier et crayon. Bon appétit! Alors pour le mezzé, on va parler des événements passés et à venir sur notre territoire.
Et autour, un petit peu plus loin, notamment, c'est ce qui s'est passé de façon tout à fait impromptue au Ciment Lafarge-Auteuil, puisque les salariés des Ciment Lafarge sont partis en grève le 9 janvier, donc c'est tout récent, et ils se sont mobilisés contre la répression et la discrimination de leur employeur.
Le 9 avril.
Oui. Ah, ça y est, moi je redémarre l'année là. Dans un climat délétère, 5 salariés, dont 2 de la CGT, ont été convoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire après un incident technique dû à la charge de travail en constante augmentation et des demandes de rendement toujours plus élevées par la direction. Un rassemblement a donc eu lieu pour les soutenir lundi matin, 7h du matin, hein, il fallait être courageux. Et donc il y a eu pas mal de monde pour soutenir. On reste maintenant à suivre les négociations qui peuvent se poursuivre pour que ces salariés ne soient plus poursuivis.
Alors sinon, ce soir, donc, à Pont de la Baume, il va y avoir, comment on peut appeler ça, une petite conférence sur les conflits, le surarmement, l'économie de guerre, la Troisième Guerre mondiale, la souffrance des peuples. Tout cela nous inquiète. Donc il va y avoir le comité du mouvement de la paix d'Aubenas qui vous propose de venir échanger sur ces craintes et sur des solutions pour changer d'orientation. Donc c'est à 18h30 à la salle des associations de Pont de la Baume. Et sinon, comme on approche du 1er mai, je voulais vous rappeler qu'il y aura une manifestation à Aubenas et la journée festival associatif, musique, repas, comme chaque année. Et le 7 juin, donc c'est un peu plus loin, mais pensez déjà à programmer la marche des fiertés, toujours à Aubenas.
Alors ensuite, on va, avec un peu d'humour, on va essayer de garder l'humour dans la période. Vous parlez du concours Lépine, du grand n'importe quoi en matière de politique sociale et sociétale que nous empruntons, ce concours Lépine, nous l'empruntons à la revue des actualités sociales hebdomadaires, qui n'est pas n'importe quoi puisque c'est la revue des professionnels du travail social en France. Alors ils ont organisé ça, concours Lépine du grand n'importe quoi. Tout d'abord, on fait concourir, premier point, la cellule Algeco. Le garde des Sceaux, Gérard Darmanin, vient d'annoncer la construction express de 3000 places de prison sous forme d'infrastructures pénitentiaires modulaires. Jolie tournure euphémisante pour désigner de vulgaires préfabriqués. De quoi, en même temps, lutter contre la surpopulation carcérale et permettre aux détenus de purger leur peine dans une ambiance camping des flots bleus, manque plus que le barbecue devant le mobil-home.
Ça fait un peu boîte de conserve, je trouve, quand même.
Exactement.
Alors, il y a aussi l'histoire du jardin d'enfants, salon de l'emploi. Donc, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, a plaidé pour une orientation professionnelle précoce. Mais vraiment très, très précoce. Presque depuis la maternelle. A-t-elle osé avant de se rétracter face au tollé sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas où est le problème, il n'est jamais trop tôt pour trouver de la main-d'œuvre pour les métiers en tension. Si en plus ça peut permettre de ne pas recourir au plombier polonais.
Alors le troisième concurrent là-dedans, par rapport au droit du sol, en parlant d'immigration, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a eu quant à lui pas une sinon deux idées innovantes, instaurer le droit de fouiller des téléphones portables des personnes en situation irrégulière et acter un nouveau durcissement de l'acquisition de la nationalité française pour les jeunes nés de parents étrangers. Devenir français ne serait plus automatique, sinon soumis à une déclaration. Et je mets des guillemets à déclaration. Alors quelle déclaration? Une sérénade? Une déclaration d'amour? Un poème en alexandrin peut-être? En attend d'avoir la suite.
Et alors enfin, last but not least, mon invention favorite, ma petite préférée que je vous livre, en Laurent Wauquiez dans le texte. Je propose que les étrangers dangereux sous OQTF soient enfermés dans un centre de rétention à Saint-Pierre et Miquelon, hors de l'Hexagone. Quel génie! Voilà, vous pouvez voter pour le projet que vous trouvez au choix le plus audacieux, le plus humaniste et le plus à même de créer de la cohésion dans notre beau pays. Il se peut qu'il y ait plusieurs vainqueurs. Et maintenant, on va écouter une petite musique avec Sylvain. Alors vous aurez reconnu John Lennon, Give Peace a Chance, c'est donner une chance à la paix. Et Dominique, tu vas nous parler de la guerre au Moyen-Orient.
Oui, alors on ne va pas redire les mêmes choses, on a l'impression qu'on se répète tous les 15 jours. Malheureusement, à nouveau, samedi prochain, un rassemblement aura lieu à 11h à l'Agora Obona. Israël intensifie sa guerre contre Gaza, des centaines de morts et d'évacuations massives et toujours de faibles condamnations internationales. Aujourd'hui, on a fait le choix de vous lire deux textes de deux citoyens, un Libanais et un Israélien, donc vous voyez, ils ne sont même pas palestiniens du coup, qui, comme nous, ont le sentiment de leur impuissance devant ce massacre. Alors le premier texte que je vais vous lire, c'est celui de Claude Elhal, qui est journaliste libanais, que certains ont connu puisqu'il a aussi été journaliste pour Le Média à un moment donné. Donc il a écrit le 9 avril 2025 sur les réseaux sociaux. Hier, en France, à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition ont brandi les photos des enfants tués à Gaza. Les autres députés se sont mis à huer. Vous avez bien lu. À huer. Ils ont hué les photos d'enfants morts. C'est au-delà de l'odieux. Aucune différence d'opinion, voire d'idéologie, ne justifie de huer des enfants morts. C'est juste abject, tellement inhumain, tellement indécent, tellement inexcusable, tellement choquant. Quant aux images de cette injure à l'humanité, pas envie de les revoir, pas envie de les entendre, pas envie de les montrer. Juste une profonde envie de vomir.
Et moi, je vais lire un texte de Tom Zandman, un citoyen israélien. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore ce qu'il adviendra de ces plus de 2 millions d'habitants. Nous en avons déjà tué au moins 50 000, probablement plus. Quant aux vivants, je sais que leur présent est aussi difficile que peut l'être l'existence humaine et que leur avenir est sombre. Il n'y a pas d'avenir à Gaza. Il n'est pas possible d'y vivre dans son état actuel. De toute réhabilitation prendra, et toute réhabilitation prendra de nombreuses années et nécessitera d'énormes investissements. Dans l'état actuel des choses, nous bloquons toute offre de reconstruction. Toute tierce partie désireuse de prendre la bande de Gaza sous son aile, alors que nous poursuivons notre campagne de mort et de destruction. Il n'y a pas de passé à Gaza. Il y avait une vie, une civilisation, mais nous en avons anéanti tous les vestiges. Universités, musées, mosquées, cimetières, nous n'avions pas besoin de les détruire, mais nous le voulions. Nous voulions effacer toute trace de vie dans cette région. Les pays du monde occidental ont soutenu l'anéantissement où sont restés les bras croisés. Les États-Unis l'ont financé et armé. En Israël, toutes les institutions de l'État ont joué leur rôle. L'académie, la presse, les tribunaux, la culture, tout le monde l'a soutenu et légitimé. Nous l'avons tous voulu. La résistance de l'intérieur était marginale et négligeable. Et nous avons condamné ceux qui résistaient comme des traîtres. La police a interdit toute expression de résistance à l'anéantissement et le public a soutenu ce silence. L'anéantissement de Gaza est devenu le projet national et nous l'avons mis en œuvre avec diligence et joie. Ceux qui ont pris une part active ont été acclamés comme des héros. Nous savions ce que nous faisions. Nous savions les souffrances indescriptibles que nous causions. Nous savions que nous commettions des crimes en temps réel. Nous savions que nous déclarions au monde entier que c'était à cela que ressemblait la justice, que c'était le visage de la moralité. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'aurais pu faire pour arrêter cela. Je voulais résister, mais je ne savais pas comment. Écrire cela ne sert à rien, si ce n'est à témoigner de ce qui s'est passé et à exprimer mon impuissance face à tout cela. Voilà comment cela s'est passé.
Une petite musique maintenant, Sylvain, s'il te plaît.
Il est temps pour la dignité, jusque devant les députés, nous savons croiser tous les savoirs, pour que grandisse notre pouvoir, d'échanger ce qu'on ne veut plus voir. S'appuyer sur notre expérience, en faire une force de délivrance, même si la misère nous bâillonne. Car nos idées peuvent être bonnes, les entendre chanter à la donne. Nous, on va continuer à lutter encore. Face à la misère, on va faire corps, pour qu'elle ne fasse plus partie du décor.
Alors, on attaque déjà, Dominique ?
Oui, je pense qu'on va pouvoir enchaîner là sur notre partie concernant les élus. Sont-ils des justiciables comme les autres ? C'est un peu la question qu'on se pose en entendant les échanges qu'il y a globalement à la radio, à la télé, etc.
Alors, Marine Le Pen et 8 autres députés du Rassemblement national reconnus ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Tous les élus, dont Marine Le Pen, écopent notamment de peines d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et la campagne en cours vise à nous faire croire que ce jugement est injuste. Ce qui nous amène aussi à parler un petit peu des affaires passées, ce qui a déjà été jugé, comme par exemple François Fillon, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien Premier ministre, qui a été condamné en première instance en juin 2020 à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour des emplois fictifs qui concernaient notamment sa femme Pénélope. Il écope d'une amende de 375 000 euros et 10 ans d'inéligibilité. Le couple a été jugé en appel en novembre 2021 et la cour d'appel de Paris le condamne à 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 10 ans d'inéligibilité, toujours 375 000 euros d'amende.
Alors on va continuer la série, hein, comme quoi ce n'est pas une grande première qui nous arrive là. Alain Carignon, ministre délégué chargé de l'environnement du gouvernement Chirac, puis ministre de la communication du gouvernement Balladur, ancien maire de Grenoble, si vous vous souvenez, Alain Carignan est condamné en 1996 à 5 ans de prison, dont 4 fermes, et 5 ans d'inéligibilité pour corruption dans l'affaire Dauphiné News. Il a purgé 29 mois de prison ferme jusqu'à sa libération anticipée en 1998.
Alors Bernard Tapie, bon, un grand classique. Ministre de la Ville sous François Mitterrand, Bernard Tapie est condamné en 1995 pour complicité de corruption et subornation de témoins à 2 ans d'emprisonnement, dont 8 mois fermes et 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire du match de football truqué OM Valenciennes. Après 165 jours de prison, l'ancien président du club marseillais obtient en 1997 une libération conditionnelle. Il est condamné en appel la même année à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, pour fraude fiscale dans l'utilisation du yacht Le Phocéa, mais obtient une confusion de ses peines fermes. En 2005, il est condamné à une troisième peine de prison ferme pour fraude fiscale sur une autre période.
Et on continue avec les vedettes. L'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, a été condamné en avril 2023 pour recel et détournement de fonds publics à 5 ans d'inéligibilité, mais cette fois avec exclusion provisoire, donc comme Marine Le Pen. Et il a donc dû démissionner de ses mandats de maire et de président de la métropole, même s'il a fait appel et même si, de toute façon, il a disparu de la circulation.
Alors Brigitte Barège a été condamnée pour détournement de fonds publics, 5 ans d'inéligibilité qui prennent effet immédiatement. Elle quitte aussi ses fonctions de maire et de conseillère départementale. En décembre 2021, elle est finalement relaxée et retrouve ses sièges. Le cas le plus proche de Marine Le Pen en termes d'impact politique, c'est Alain Juppé.
Ah oui, Alain Juppé en 2004. Alors lui, à l'époque, il était président de l'UMP, donc c'est en ça aussi que ça se rapproche de la situation de Marine Le Pen. Et il était potentiel candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2007. Souvenez-vous, c'est finalement Sarkozy qui a gagné ces élections. Alain Juppé était d'ailleurs le favori de Jacques Chirac et de ses partisans au moment où il est condamné. Dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, Alain Juppé écope d'abord de 10 ans d'inéligibilité avant de faire appel et de voir quelques mois plus tard sa peine réduite à 1 an. Il a démissionné dès le lendemain, il quitte la France pour le Canada avant de revenir plus tard et refaire une carrière dans la politique. Mais il aura quand même perdu ses postes de député et de président de l'UMP au passage.
Alors pour les deux derniers, donc on a Jean-Marie Le Pen en 98 qui a été condamné à un appel à 1 an d'inéligibilité et à 3 mois de prison avec sursis pour violence envers une candidate socialiste à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines lors de la campagne des élections législatives de 97. Décision confirmée en cassation qui a fini par lui coûter ses mandats de conseiller régional et de député européen quelques années plus tard. Et plus récemment, on peut citer Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget sous François Hollande, qui a été condamné en 2018 pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale à 5 ans d'inéligibilité. Et pendant ce temps, Dominique.
Alors, en parallèle, donc, on va boucler sur les élus et leur turpitude en rappelant donc tous ces faits qui font qu'on n'est pas sur une situation particulière. Mais pendant ce temps, je vais vous raconter une petite histoire de gens qui, eux, n'ont pas eu de sursis, ne sont pas partis avec des bracelets électroniques, etc. C'est l'histoire de 4 employés à l'aéroport de Marseille qui récupéraient chaque soir les aliments invendus du terminal 1 pour donner à manger aux SDF vivant dans l'aéroport, puis aux femmes de ménage et aux agents de sécurité qui faisaient le travail pendant la nuit. Licenciés pour faute grave, les 4. Le groupe britannique SSP, c'est-à-dire qui possède Starbucks et Prêt à manger, les deux lui appartiennent, les a licenciés tous les 4. On peut se dire qu'il faut boycotter ces 2 enseignes, mais on peut aussi se dire que quand même, pleurer parce qu'on est inéligible et qu'on ne exécutera pas ces peines de prison telles qu'elles ont été décidées, parce que c'est clair que ni Marine Le Pen, ni tous les autres, il y en a très peu qui ont fait de la prison dans tous ceux qu'on vient d'énumérer. On a que Sarkozy qui est dehors en ce moment, par exemple. Voilà. Donc, alors que là, on a des personnes qui ont perdu leur gagne-pain, qui ont perdu toute leur survie parce qu'ils ont osé donner à d'autres. C'est absolument choquant. Voilà, avec ça, on va terminer nos affaires sérieuses et passer au dessert.
Oui, on passe au dessert, Sylvain, avec la musique.
Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je
Voilà, on conclut donc sur le chapitre de la corruption. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette syrienne, c'est le houti. Et donc c'est une recette à base de viande d'agneau et de riz, et je vous donne les ingrédients. Donc il vous faut 250 g de riz basmati long, 500 g de viande d'agneau hachée, 200 g de petits pois, 200 g d'amandes entières émondées, un paquet de pâte filo ou de feuilles de brique, 2 feuilles de laurier, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre, de la cannelle, cardamome, muscade, curcuma. Pour la préparation, vous lavez puis vous faites tremper le riz 20 minutes. Dans une poêle, vous faites revenir la viande hachée avec de l'huile. Vous ajoutez les petits pois qui peuvent être surgelés. Vous assaisonnez. Dans une casserole avec du beurre, vous faites dorer les amandes entières. Réservez dans la même casserole, mettre 2 feuilles de laurier, le riz égoutté et 400 ml de bouillon de légumes. Vous remuez. Vous cuisez à couvert à feu moyen jusqu'à absorption du bouillon. Dans un saladier, vous mettez le riz, le mélange de viande, les petits pois, les amandes dorées et vous mélangez. Comptez 2 feuilles filo par portion. Vous préparez une plaque pour le four avec du papier cuisson. Vous disposez les feuilles en croix dans un bol. Vous garnissez du mélange refroidi et vous rabattez les bords vers l'intérieur. Vous retournez le bol et vous disposez sur des plaques les pliures en dessous et vous enfournez tout ça à 180 degrés 35 minutes. Vous pouvez servir avec une salade et une sauce au yaourt, à la menthe et au concombre. Je ne sais pas oui, si on a le temps, Sylvain, d'écouter la musique qui était la dabke de solidaire de la Palestine, s'il te plaît. Voilà, ben c'est temps de conclure l'émission et de remercier Sylvain à la réalisation et à la technique de l'émission, de remercier Dominique aussi et de donner le mail de l'émission. Tu veux le rappeler, Dominique?
Oui, donc c'est paroledecitoyen@fréquence7.net, tout en minuscules et attaché. Et puis on vous dit dans 15 jours et vivement que ce soit le printemps, parce que là c'est pas terrible.
Oui. Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.